On va lire dans Jean, chapitre 15, les versets 1 à 17. Jean, chapitre 15, à partir du premier verset. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on regarde le thème de l'amour de Dieu pour nous, qu'on a vu la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, qu'on a vu les effets de l'amour de Dieu pour nous, tout ce que Dieu fait pour nous à cause de son grand amour pour nous. Mais bien évidemment, si Dieu nous révèle dans la Bible à quel point il nous aime et s'il nous fait connaître et ressentir dans notre vie son amour, c'est comme dans toute relation d'amour, c'est dans le but de solliciter une réponse de notre part. C'est dans le but que nous l'aimions en retour. Si vraiment nous voulons vivre les effets, les bienfaits de l'amour de Dieu dans notre vie, bien évidemment, ça nécessite d'entrer en relation avec lui et de vivre en relation avec lui. Alors Dieu prend l'initiative d'exprimer son amour à notre égard. Mais ce qu'il espère en révélant son amour, c'est que cela trouve un écho dans notre cœur et que devant la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, notre cœur répond au sien avec de l'amour de notre part. C'est ce que Jean a écrit en 1 Jean 4, verset 19, lorsqu'il dit « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est là le but, l'objectif de Dieu en révélant son amour envers nous, c'est que nous puissions l'aimer à notre tour en disant bah, devant un tel amour, devant ce que tu as fait pour moi, devant le fait que tu as même été prêt d'aller jusqu'à la croix pour moi, sachant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Seigneur, je ne peux que répondre à ton amour avec de l'amour aussi. Et ce n'est pas très surprenant que ce soit Jean qui a écrit, qui a résumé donc ce désir de Dieu dans sa lettre, puisque très souvent on dit que Jean est l'apôtre de l'amour. C'est-à-dire l'amour est un des thèmes principaux, très chers au cœur de Jean, et donc il a beaucoup écrit dans son évangile sur tout ce que Jésus enseignait sur l'amour, et puis il reprend dans ses lettres les effets de cet amour et comment vivre cet amour. C'est après tout Jean qui a résumé le projet du salut, le projet d'envoyer Jésus-Christ dans le monde en termes d'amour en Jean 3,16, lorsqu'il dit « C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il dit « Jésus n'est pas venu pour que le monde soit jugé, pour condamner le monde. » Jésus est venu parce que Dieu nous aime et voulait manifester l'immensité de son amour vis-à-vis de nous, voulait qu'on comprenne à quel point il nous aime. Et donc c'est peu surprenant que Jean, qui était tellement touché par ce thème de l'amour, fait de l'amour un des thèmes récurrents et aussi écrit beaucoup sur notre réponse à l'amour de Dieu. Il nous montre comment Dieu veut qu'on vive en relation avec lui et même nous explique comment Dieu désire que nous on l'aime. Comment Dieu désire recevoir notre amour. C'est important donc de lire ce que Jean dit au sujet de l'amour de Dieu pour nous, au sujet de notre amour pour Dieu, parce que il y a un danger qui nous guette tous ici ce matin, j'imagine, parce que c'est un effet de la culture dans laquelle nous vivons, où finalement nous comprenons l'amour souvent comme un sentiment. L'amour est un sentiment, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qui nous donne peut-être quelques frissons, et c'est surtout quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. On parle de tomber amoureux, et on réduit l'amour à ce sentiment qui finalement nous rend esclaves de nos sentiments. Et où finalement le seul moyen dans la société actuelle d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de sincère, c'est de suivre ce sentiment jusqu'au bout et de vivre comme esclave de ce sentiment. De nos jours, quelqu'un de bien, ce n'est pas quelqu'un qui fait forcément ce qui est juste, mais c'est quelqu'un qui est sincère vis-à-vis de ses sentiments, qui est entier dans ses sentiments et qui suit ses sentiments là où ses sentiments l'emmènent. Et cette notion de l'amour comme juste un sentiment qui nous contrôle devient facilement la justification de toutes sortes de choses, même des travers, même des choses qui ne sont pas du tout bien, mais qui sont justifiés par le fait que je l'ai fait par amour. J'ai suivi ce sentiment, j'ai suivi l'amour là où ça voulait me mener. Alors même en dehors de quelques manifestations tordues d'un amour à sens unique, comme l'harcèlement ou autre chose, ce sentiment de l'amour est utilisé pour justifier des mariages irréfléchis, où finalement, on n'avait rien en commun, à part le fait que, boum, on est tombé amoureux, ce sentiment nous est tombé dessus. Et bon, même si finalement, tout le monde autour voit que c'est voué à l'échec, c'est voué au désastre, peu importe, on a suivi notre cœur. On peut justifier des adultères, ce qui, objectivement parlant, est quelque chose de terrible, mais bon, finalement, on a suivi notre cœur. C'est l'amour qui en est responsable, qui nous a conduits à commettre l'adultère. Il y a des familles brisées où on justifie les dégâts en disant « Ah on ne sentait plus l'amour l'un envers l'autre. » Donc bon, quels que soient les dégâts collatéraux, il fallait quand même suivre son cœur, sinon on n'est pas quelqu'un de bien, on n'est pas quelqu'un de sincère. Le problème, c'est que vivant dans une telle culture, cette vision de l'amour peut aussi déformer notre manière d'aimer Dieu. Notre vision de ce que ça veut dire d'aimer Dieu en retour pour son amour pour nous. Notre amour pour Dieu peut aussi être réduit à une situation où il n'y a que le sentiment qui compte. Et où finalement, si notre cœur se sent bien, tout va bien. Donc parfois, notre amour pour Dieu peut être réduit à quelques frissons, quelques sentiments que produise la louange. Alors, il faut espérer que lorsqu'on loue Dieu, on ressent quelque chose dans notre cœur, que ça nous touche. On voit dans la Bible les psalmistes qui étaient touchés par leur louange envers Dieu. Mais en même temps, le risque, c'est que puisque on a ressenti quelques frissons qui étaient peut-être dus à l'environnement spirituel, au fait que Dieu nous a touchés, mais qui pouvaient aussi être dus au fait que la musique nous a touchés, que les choses humaines nous ont touchés. C'est pour cela que Dieu nous montre autre chose. Parce que le risque, si on réduit notre amour pour Dieu à quelques frissons, à quelques sentiments, c'est qu'on tombe dans ce que la Bible qualifie d'hypocrisie. Nous, notre mot hypocrisie ou hypocrite vient du mot grec qui se trouve dans le Nouveau Testament, qui était finalement simplement le mot quotidien, tout naturel, pour parler de ce qu'on fait au théâtre. C'était ce que font les acteurs. Ça voulait dire simplement porter un masque. Ils portaient un masque pour se présenter comme quelqu'un d'autre. En dehors de la scène, ils n'étaient pas du tout les personnages qui jouaient. Si vous regardez quelqu'un à la télé, ça ne veut pas dire que sa vie privée ressemble à ce qu'il vit à la télé dans une série. D'ailleurs, il suffit, si vous regardez suffisamment, un coup il joue quelqu'un de bien, un coup il joue quelqu'un de moins bien. C'est simplement qu'il porte le masque le temps qu'il faut pour être cette autre personne. Il est tout à fait donc possible pour nous de ne pas aimer Dieu avec la définition biblique d'aimer Dieu et pourtant de porter le masque au culte, d'être touché par la louange, d'avoir quelques frissons, quelques sentiments, et donc de dire « Ah c'est la preuve que j'aime Dieu. » Parce que j'ai ressenti quelque chose dans la louange. Sauf que Dieu ne parle pas de cela comme étant la manière d'aimer Dieu. Dieu met son doigt sur autre chose. Il dit « Moi, je vous aime à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. » Ce que je veux, c'est que vous répondiez à mon amour. Mais voilà comment vous pouvez répondre à mon amour. C'est en obéissant à mes commandements. C'est en faisant ce qui est juste. Le risque, c'est si on réduit notre amour pour Dieu à des frissons, à des sentiments, on le détache de notre vie en dehors de ces moments de frisson. Et donc on se dit, bah, peu importe comment je vis. Ce qui est important, c'est que je suis le sentiment. Si j'ai ressenti ce sentiment, même si après je n'obéis pas à Dieu, c'est pas grave parce que j'ai ressenti de l'amour. J'ai peut-être ressenti quelques frissons, mais selon Dieu, ce ne qualifie pas d'amour pour Dieu. Je vous ai déjà parlé d'un couple d'amis qu'on a connu depuis l'école biblique en Angleterre, qui sont pasteurs en Angleterre, qui nous disaient qu'une fois, ils avaient dû confronter un couple dans leur église, ou plutôt deux personnes dans leur église. Tous les deux étaient mariés avec deux autres personnes dans l'église. Et le pasteur s'est rendu compte que ces deux personnes s'étaient liées dans une relation d'adultère, où donc ils laissaient de côté leur conjoint chacun pour être ensemble. Ce qui a bluffé le pasteur lorsque lui et son épouse leur ont parlé, c'est que ce couple a dit, ben, où est le problème ? On est chrétien, on aime Dieu. D'ailleurs, lorsqu'on est à l'église, on aime la louange, on loue le Seigneur, on prie. Et on dit même, lorsqu'on se retrouve et lorsqu'on va coucher ensemble, on loue le Seigneur et on prie ensemble avant de coucher ensemble. Donc où est le problème ? Si on réduit notre amour pour Dieu à un sentiment, où est le problème ? Quand ils sont à l'église, ils lèvent les mains, ils louent, ils prient. Où est le problème ? Le problème, c'est que Dieu a dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Pour Dieu, c'est donc plus important que ce que je ressens lorsque je suis à l'église, ce que je présente lorsque je suis à l'église. Lui, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En Matthieu 22, versets 37 et 38, il y a cette discussion entre Jésus et une scribe expert de la loi juive qui lui pose la question, quel est le plus grand, le commandement le plus important de l'Ancien Testament ? Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Sauf qu'il est important de savoir que lorsque, dans la pensée hébraïque, un juif parlait du cœur, ce n'était pas dans le sens d'une carte de Saint-Valentin avec un cœur dessus pour dire « je t'aime ». Le cœur était vraiment l'endroit qui était au cœur de ses décisions, au cœur de la volonté, au cœur de ce qu'il décidait qu'il allait faire. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu vas prendre cette décision de t'attacher au Seigneur et de vivre pour lui. D'où ce message d'amour en Jean 15, où Jésus parle de demeurer en lui, de demeurer dans son amour, et donc de garder ses commandements, de faire ce qu'il dit. Dieu présente notre amour pour lui comme une décision qui va transformer toute notre vie, parce que puisqu'on aime, on va vouloir lui faire plaisir, on va s'accrocher à lui, peu importe le côté sentimental. On va prendre cette décision de vivre avec lui et de vivre pour lui, de demeurer en lui et de porter du fruit. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. D'accord, parfait. Jésus m'aime de la manière que Dieu le Père aime Jésus. C'est formidable. Bien évidemment, je veux demeurer dans son amour. Il continue verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. La Bible nous parle du fait que Jésus a été obéissant en tout point au projet, à la volonté, au commandement de son Père. Donc Jésus dit, vivez comme moi. Moi, je montre au Père que je l'aime par mon obéissance. Montrez-moi que vous m'aimez par votre obéissance, par le fait de faire ce que je dis, alors vous demeurerez dans mon amour. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Selon le Seigneur, donc, dire, je vis dans une relation adultère, mais je loue le Seigneur et je ressens des frissons pendant la louange. Il dit ça, c'est porter le masque. C'est l'hypocrisie où vous vous présentez, vous vivez même pleinement ces choses le temps qu'il faut. Mais vous n'obéissez pas à mes commandements. Souvent, ils disent que les comédiens sont souvent déprimés parce qu'ils ressentent tellement fortement les sentiments qu'ils sont censés jouer le temps de leur pièce. On peut ressentir des choses sans que ce soit la vraie réalité de notre vie. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Chapitre 14, le chapitre précédent, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. On ne peut pas dire que le Seigneur nous a laissés dans l'ignorance, nous a pas montré comment lui exprimer notre amour, ce que ça veut dire d'aimer Dieu. À maintes et maintes reprises, il répète, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et donc Jean, qui clairement dans son évangile a été tellement impacté par cet enseignement de la part de Jésus, continue à conseiller les chrétiens de vivre cela dans sa lettre. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 2, verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Nos sentiments peuvent être trompeurs, peuvent nous mener par le bout du nez dans une mauvaise direction, peuvent soit nous dire que on ne peut pas aimer Dieu ou on ne peut pas aimer cette personne parce qu'on ne ressent pas cet amour, on ne ressent plus cet amour. Mais Jean nous dit, si on agit, si on a pris cette décision et on agit avec amour, par cela nous savons que nous sommes en lui. Car l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Et 1 Jean 3, verset 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. » Jean 15, Jésus disait, « Si vous m'aimez, demeurez en moi. » 1 Jean 3, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. » Si on veut cette relation que Dieu nous propose, si on veut répondre à cet amour incroyable que Dieu a pour nous, il nous dit alors, gardez mes commandements, car celui qui garde les commandements demeure en Dieu. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors on a vu ces dernières semaines que l'amour de Dieu produit dans nos vies des effets magnifiques, ouvre tout un panoplie de bénédictions que Dieu veut nous donner. Et on avait vu donc en particulier que c'était le cas, par exemple pour la prière, on avait vu l'autre fois que la prière est un des fruits de l'amour de Dieu, est ancrée dans cette relation d'amour avec notre Père. On avait vu que si on a cette confiance de nous approcher de Dieu, c'est lorsqu'on est fondé dans son amour, lorsqu'on a compris à quel point Dieu nous aime, et donc on sait qu'il nous invite à venir auprès de lui, notre Père. Et on avait vu qu'on a aussi la confiance que Dieu exaucera notre prière parce qu'il nous aime et à cause de cette relation que nous avons avec lui. Mais en même temps, il nous montre dans sa parole que comprendre cela n'est pas, si on peut dire, un chèque en blanc où il dit, écoute, moi, je vous aime et puisque je vous aime, peu importe comment vous réagissez face à mon amour, je vous aime, donc je vais vous donner tout ce que vous voulez, tout ce qui est bon pour vous, il n'y a pas de problème. Mais on a vu donc que ça entre dans le cadre d'une relation où Dieu désire donc que nous répondions d'abord à son amour, et où il dit donc répondre à son amour implique le fait d'obéir à ce qu'il dit. Donc, Dieu a promis d'exaucer nos prières parce qu'il est notre Père qui nous aime. Il avait dit, si vous vous rappelez, vous, des êtres humains, pécheurs, vous êtes capables de donner de bonnes choses à vos enfants parce que vous les aimez. Donc, à combien plus forte raison, moi, votre Père céleste, qui vous aime avec un amour parfait, ne suis-je pas capable de faire la même chose en vous donnant de bonnes choses? Mais en même temps, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, nous montre que, comme pour toute la question de l'amour de Dieu et notre réponse à cet amour, ça s'intègre dans le fait de demeurer dans sa parole, d'obéir à ses commandements, d'être en relation avec lui. En 1 Pierre 3, verset 7, Pierre prend un cas pratique quand il dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Alors, il me semble que c'est surtout un cas concret. Alors, il ne faut pas chercher à se cacher derrière cette tendance qu'on a tous de chercher la petite faille pour dire « Ah oui, ça peut s'appliquer aux autres, mais pas à moi. » Déjà, j'imagine qu'à partir du moment où on commence la phrase par « Marie », toutes les dames débranchent le cerveau en disant « Bon, c'est très bien qu'il écoute, mais moi, ça ne me concerne pas. » Sauf que si on se rappelle Éphésiens, lorsque Paul parle au sujet du mariage, même lorsqu'il parle au mari, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », c'est dans le contexte de l'enseignement sur la soumission mutuelle où finalement il l'applique à chacun. Ici aussi, c'est plutôt un cas concret, un cas d'exemple que Pierre emploie, mais finalement tout le monde, mari, épouse, célibataire, enfant, tout le monde peut tomber dans le même panneau. Parce que qu'est-ce que Pierre dit en réalité? On va lire dans la version français courant, « Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate, traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Dans Éphésiens, Paul avait dit au mari, « Aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. » Commandement de la part de Dieu. Pas de tergiversation, pas « ce serait pas mal si vous faisiez ainsi. » Il dit, « Marie, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église. » C'est un commandement. Donc, Pierre dit, si vous n'obéissez pas au commandement, si vous pensez que vous pouvez juste aller au culte, faire une belle prière, et puis en sortant du culte, vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'aimez pas votre épouse comme Christ a aimé l'Église, alors ne soyez pas surpris s'il y a des obstacles à ce que votre prière soit exaucée. Oh mais, quand même, le Seigneur a dit, je suis votre père, je suis un bon père, donc évidemment, je vais vous donner ce qui est bon pour vous, je vais exaucer vos prières. Oui, mais Dieu a dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez en moi. Hors question de porter le masque du bon comédien chrétien pendant le temps du culte, faisant des belles prières, et puis en sortant, en employant la même langue qui a formulé cette belle prière envers Dieu, pour s'insulter et pour s'appeler tous les noms d'oiseaux à la maison, et puis imaginer que puisque Dieu a dit « Je suis un bon père », il va automatiquement exaucer toutes nos prières. Il dit « C'est si vous obéissez à mes commandements que vous demeurez en moi. C'est si vous obéissez à mes commandements que vous prouvez que vous m'aimez. » Dieu s'intéresse presque plus, je dirais, à notre manière de parler l'un envers l'autre à la maison, qu'à notre manière de lui parler lorsque nous sommes au culte. Et la vraie puissance de notre prière se trouvera dans notre obéissance en dehors du culte qu'avoir trouvé la belle formule pour impressionner tout le monde lorsqu'on a prié au culte. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on demeure en lui. Si vous demeurez en moi et mon amour demeure en vous, alors vous pouvez faire confiance à moi, votre Père, de faire tout ce que j'ai dit. Parce que vous demeurez en moi. Mais celui qui demeure en moi, c'est celui qui fait ce que je dis. Alors c'est sûr que lorsque on lit de telles paroles de la part de Jésus, lorsqu'on lit ces versets qui parlent du fait que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, que l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole, que celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, que si vous m'aimez, gardez mes commandements, le danger c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît parfaitement cette parole et qui va nous le citer comme il citait la parole à Jésus lors de la tentation de Jésus. Et va dire, ah ben tu vois, tu n'aimes pas vraiment Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu, parce que l'amour de Dieu est parfait en celui qui obéit à ses commandements. Et tu as vu ce que tu as fait, là, l'autre moment, tu as vu ce que tu as dit, Donc tu ne demeures pas en Dieu, Dieu ne demeure pas en toi. Donc pas la peine d'imaginer que Dieu va exaucer tes prières ou que tu es en relation avec Dieu et que Dieu va t'aimer en tant que ton Père. Il est important, lorsqu'on lit de telles paroles, d'écouter ce que dit Dieu et non pas ce que dit notre accusateur qui chercherait à nous séparer de Dieu en employant la vérité de la parole de Dieu à travers, comme il l'avait fait avec Jésus, quand il lui citait la parole de Dieu. Et Jésus était obligé de dire, oui, mais la parole dit également. Et de rééquilibrer ce qu'il disait. Ici, il n'est pas question d'obéissance parfaite. La Bible nous montre. Dieu sait pertinemment qu'on est incapable d'une obéissance parfaite. Si on était capable d'obéir parfaitement à la parole de Dieu, il n'y aurait pas besoin de la grâce. Il n'aurait pas eu besoin d'envoyer Jésus-Christ mourir sur la croix portant nos péchés. Il aurait très bien pu dire, bah, faites un petit effort quand même. Vous en êtes capable. Qu'ont dit les apôtres, exiger aux nouveaux chrétiens d'obéir à toute la loi, c'est leur demander de porter un poids qu'aucun juif de l'histoire n'a pu réaliser parce que c'est au-delà de la nature humaine. Il ne parle pas donc d'une obéissance parfaite et que Dieu ne nous aimera que si on obéit parfaitement, en tout temps, à tout, et que si on rate, bah, tant pis pour nous, on a tout perdu. Il parle plutôt de notre intention, l'intention de notre cœur. Seigneur, je t'aime, et donc je veux faire ta volonté. Je vais me donner de la peine pour faire ta volonté, pour obéir à ta parole. Si mes pensées sont en contradiction avec ta parole, je vais me faire violence pour faire ta volonté. Je veux me baser sur ce que tu as dit. D'accord, parfois je rate, mais à ce moment-là, j'implore ta grâce et j'essaie à nouveau d'obéir à ta parole. Mais il y a une énorme différence entre ne pas toujours réaliser notre intention d'obéir à Dieu et ne même pas avoir l'intention, ne pas avoir la moindre intention de garder sa parole si sa parole contredit ce que je ressens ou ce que j'ai envie de faire. Donc il ne faut pas écouter notre accusateur lorsque nous lisons ces paroles de Jésus, mais nous fixer sur ce que lui a dit. Et si on se fixe sur ce que lui a dit, ben non seulement on n'écoute pas notre accusateur, mais on ne doit pas s'écouter nous-mêmes non plus. On ne doit pas écouter notre propre chair. Parce que la Bible nous montre que l'amour est sacrificiel. Le problème, notre chair n'aime pas faire des sacrifices. Du côté de Dieu, on voit que l'amour est sacrificiel dans le fait que l'amour de Dieu pour nous a coûté la vie de Jésus. Jésus est mort sur la croix parce que Dieu a tant aimé le monde. Parce que Dieu m'a tant aimé. Ça lui a coûté sa vie. Mais la Bible nous montre que répondre à cet amour nous coûte aussi. Et sacrificiel aussi. Parce qu'on croit que l'amour est parfait en celui qui garde sa parole. L'amour consiste à garder ses commandements. En Luc 9, versets 23-24, Jésus disait, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il ne fait pas ce qu'il a envie de faire, ce que ses sentiments lui dictent de faire, mais qu'il fasse ce que moi je lui commande de faire, qu'il obéit à mes commandements, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, celui qui voudrait garder le contrôle de sa vie et faire ce qu'il a envie de faire, la perdra. Mais celui qui la perdra, celui qui abandonnera sa vie à cause de moi, la sauvera. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais vu tout ce qu'on a vu ces dernières semaines concernant l'amour de Dieu et les bienfaits de l'amour de Dieu, si on obéit à ses commandements, si on demeure en lui et lui en nous, si on demeure dans son amour en faisant ce qu'il dit, en sacrifiant notre vie pour faire ce que lui, il a envie qu'on fasse, quel bonheur en retour. Tous ces bienfaits, toutes ces choses merveilleuses qu'on a pu voir concernant l'amour de Dieu, nous sont offerts. Parce que Dieu nous aime. Mais ce qu'il désire, c'est que cet amour soit réciproque, qu'on soit en relation, qu'il demeure en nous et que nous en demeurons en lui. Il dit « demeurer en moi », c'est faire ce que je dis. C'est obéir à mes commandements.